Que faire quand un orage est présent et que nous sommes en pleine sortie vélo? C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Et que faire? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 350, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans? Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end? Telle est l'aventure, je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours, mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vous raconte dans ces épisodes. Et la semaine dernière, j'étais parti pour 60 km sur un chemin. Je regarde devant moi, hein, comme ça et tout. J'ai une magnifique photo, j'ai une ligne droite, le beau chemin que je prends, une ligne droite. Et à droite, des nuages noirs. Et puis je voyais la pluie qui tombait. Et à gauche, un beau ciel bleu. Alors bien sûr, j'ai essayé de partir du côté du ciel bleu. Mais j'ai quand même pris l'orage par la figure. Alors ceux qui sont en Auvergne connaissent. J'ai fait une petite pause à Saint-Ignat. Comme ça, en essayant de me mettre à l'abri. Un gros orage hein, qui m'a trempé. En quelques secondes, hein, le temps que je trouve le fameux petit abri, des trompes d'eau, des éclairs, du tonnerre et par tout attis, que faire? Bon, cette expression tout attis n'est pas vraiment très très historiquement bonne, hein, on va le dire. Elle me vient plutôt d'Astérix et d'Obélix, hein, vous savez, elle est vraiment même totalement erronée parce que chez les Grecs, c'était Zeus qui brandissait la foudre. Son équivalent chez les Romains était Jupiter et chez les Nordiques, c'était Thor. Et Thor, d'ailleurs, petite anecdote, c'est que dans les tribus du Rhin, des Alpes et de la mer du Nord, ben, Thor est pour nom Donar, le tonnerre. Et Donar, ça donnait Donner en allemand qui signifie précisément tonnerre. Ben voilà, comme ça, vous savez maintenant d'où vient le tonnerre. C'était la minute culturelle du podcast. Et justement, après cette aventure, j'ai fait des recherches, hein, surtout que en ce moment, les orages sont vraiment nombreux. Et dans cet épisode, donc, le but du jeu, c'est de faire un petit peu le bilan de mes recherches et de vous dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on est à vélo et qu'il y a un orage qui se présente.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mais avant, bah vous savez, je vais faire mon petit traditionnel fil rouge, hein, vous dire où j'en suis de mon entraînement justement pour préparer le Gravelman. Alors la semaine dernière, j'ai roulé 316 km. Et c'est pas mal. 13h42 de sel, dont un aller-retour Vichy-Clermont dans la journée du mercredi, hein, 120 km. Donc en fait, je l'ai fait en deux sorties. J'ai fait 60 km le matin, 60 km le soir. Donc ça m'a permis en fait de cumuler des kilomètres, hein, tout simplement, sans avoir une fatigue de l'avoir fait en une seule traite, parce que j'ai mangé entre-temps, j'ai joué avec ma fille, on était à la musique, etc. Enfin voilà, un petit peu une journée classique de mercredi pour le papa que je suis. J'ai aussi accompagné pendant quelques kilomètres Pierre qui profitait d'une semaine en Auvergne pour faire découvrir une sortie de 200 km à un copain de son club. Donc le jeudi, en fait, ils sont passés par Vichy. Donc je les ai rejoints bah, pas très loin, puis on a roulé un petit bout. Là, je les ai amenés jusque vers la sortie à Saint-Yor. On a mangé un petit bout à la boulangerie, et puis je les ai laissés faire leur petit chemin, justement, en me disant est-ce qu'ils vont prendre l'orage, est-ce qu'ils vont prendre la pluie avant d'arriver au retour où ils étaient. Et puis globalement, je dois dire, dans la semaine, j'ai essayé de rouler plus vite en essayant, par exemple, de m'arrêter moins souvent, de rouler plus en continu. Par exemple, de me dire, bah tiens, pendant 2 heures, là, je roule et tout, et sur les routes sur lesquelles j'étais, routes et chemins, bah, il y avait justement des moments ou des endroits où finalement je peux rouler quasiment sans m'arrêter. Et donc l'idée, c'est de rouler plus en continu, de garder une vitesse plus constante, d'essayer de rouler un peu plus vite, d'augmenter un peu ma moyenne, tout simplement. Voilà, c'était un petit peu mon objectif. Et puis en même temps, j'ai commencé à réfléchir à ma petite balade de l'été que je voudrais faire pour préparer justement le Gravelman. L'idée, c'est de me dire, bah, comment arriver à préparer ces fameux 350 km. Et vous savez, j'avais dit les aventures bikepacking, être allé en Bourgogne et tout en vélo, ça me donne des idées. Et en me disant, bah tiens, est-ce que je pourrais pas le faire sur plusieurs jours? Alors l'autre jour, j'ai commencé à faire une carte. Hein, j'ai commencé à faire une carte. Vous savez, je me dis, j'ai envie de voir l'océan, j'ai envie de voir la mer et tout. Alors comment faire? Donc j'ai commencé à placer une carte et je me suis dit, bah tiens, finalement, quelle distance il faudrait que je fasse pour aller voir l'océan? l'océan ou la mer. Alors j'ai commencé à placer des traits. Et puis j'ai placé un trait pour aller jusque par exemple à Nantes en remontant. Alors moi, en étant à Vichy, je pourrais remonter jusque vers Nevers et puis à partir de là suivre la Loire et aller jusqu'à Nantes. Et donc voilà, si vous êtes sur le trajet, bah, vous pourriez me voir à ce moment-là. Et puis ensuite, je me suis dit, bah tiens, comment je rentre ? Alors je me suis dit, bah tiens, je pourrais rentrer en passant, en longeant un petit peu l'océan comme ça et en descendant jusqu'à Bordeaux. Là, il doit y avoir des chouettes trucs là, tout le long. Et puis après, bah, comment rentrer ? Alors, bah, après, rentrer, je peux rentrer à travers. Ou alors, il y aurait une autre solution, ce serait de dire, bah tiens, à partir de là, je pourrais aller voir la Méditerranée. Et donc, longer le canal du Midi et hop là, et partir jusqu'à Méditerranée, rejoindre Narbonne ou Grusson où on passait les vacances chaque année. Et bah, une fois que j'ai placé tout ça sur une carte, ça fait 1630 km. Alors oui, alors faire ça. Si je veux placer ça en une grosse semaine, effectivement, ça ferait des étapes à 200 km. Je pense que après un truc comme ça, j'aurais testé le vélo, le matériel, le bonhomme, le fait de pouvoir dormir en extérieur, de manger, de me ravitailler, etc. Je pense qu'à ce niveau-là, j'aurais à peu près toute la préparation nécessaire, le kilométrage, tout ce qu'il faut pour arriver à affronter le Gravelman dans des bonnes conditions. Et tout, le Paris-Deauville début septembre. Voilà, donc ça serait à peu près le plan, hein, à peu près le plan, comme ça. Mais bon, pour ça, il faut m'entraîner. Et je dois le dire, cette semaine, pour le moment, je n'ai pas roulé. J'enregistre cet épisode ce jeudi matin. Je dois le dire, j'ai pas roulé. Et justement, à cause des orages. Bah oui, justement, à cause des orages. Hein, ce mercredi, j'avais prévu de faire mon petit aller-retour, mais 120 km par exemple. Et en fait, il a plu toute la nuit. Il y a des orages énormes qui sont tombés, etc. Et donc, bah, je me suis dit, c'était quand même temps de dire, qu'est-ce qu'on fait justement quand il y a ces fameux orages? Justement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand j'ai commencé à faire des recherches, je suis tombé sur les idées fausses qu'on peut avoir, et notamment celles que moi, par exemple, j'avais en tête, hein, qu'on a pu entendre, notamment, vous savez, celles qu'on peut entendre. Oui, alors les pneus en caoutchouc de nos vélos de voiture protègent de la foudre. Bah, en fait, c'est faux. Bah oui, c'est faux. En fait, en voiture, on dit que on peut pas prendre la foudre parce que, en tout cas, que nous, on peut pas prendre la foudre. Mais parce que la voiture, elle, elle peut prendre la foudre. Et c'est arrivé à ma maman quand j'étais adolescent. Elle a pris la foudre sur l'autoroute. Mais en fait, elle a pas été foudroyée, elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la voiture elle-même fait cage de Faraday. En fait, le principe, c'est que si la foudre touche la voiture, l'électricité va parcourir toute la surface et elle va aller vers le sol. C'est toujours le principe, en fait, hein. La foudre, elle chope un point haut et elle descend vers le sol. Et donc, il se trouve que la voiture, par sa présence métallique, etc., peut conduire l'électricité vers le sol. Alors, le conducteur et les passagers sont protégés à deux conditions. D'une part, c'est que la carrosserie soit métallique et que le véhicule soit fermé. Oui, voilà, hein, si vous roulez en cabriolet, ça va pas marcher, l'histoire, tout simplement. Et donc, on comprend aussi que ce sont des conditions qui ne sont pas réunies sur notre vélo, parce que finalement, on n'est pas dans une cage, hein, on est à vélo, on n'est pas en vélo, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un vélo, on est à vélo, sur notre vélo, on est en décapotable, hein, j'ai envie de dire. Et pire, les vélos, en fait, ben, ils sont métalliques, hein, avec des cadres métalliques pour, alors, pas tous, hein, bien sûr, ça dépend des vélos que vous avez et tout, mais dessus, il y a quand même quelque part du métal, il y a quand même de la ferraille ou quoi que ce soit, et ben, en fait, ça peut accroître le risque. Alors, le risque, en fait, il existe vraiment. D'ailleurs, il existe vraiment. Dans mes recherches, je suis tombé l'an dernier sur deux cyclistes sont morts, notamment le vendredi 26 août, au col de l'Assiette, à la frontière entre la France et l'Italie. Ils ont été foudroyés au guidon de leur vélo électrique. Alors, il se trouve qu'il y en avait un, d'ailleurs, pour l'anecdote. Je vous dis juste l'anecdote, parce que la prochaine fois, vous irez faire des courses, notamment si vous aimez bien les panettones. Un était Alberto Balocco, et Balocco, justement, c'est le roi du... Enfin, c'était le roi des panettones. Si vous allez dans le commerce, des fois, vous trouvez des gros panettones. Et si vous voyez Balocco, ben, vous saurez que la personne qui gérait l'entreprise jusqu'à l'an dernier, ben, est morte foudroyée sur son vélo. Voilà. Alors, la question que se posait le journal italien de La Repubblica, c'était de savoir si finalement le fait que le vélo électrique avec la batterie, le moteur, etc., pouvait augmenter le risque d'être frappé par la foudre. Alors, ils sont pas certains, en fait. Hein, ils sont pas certains. Peut-être qu'on aura des probabilités. Vous savez, c'est une question de risque, de probabilité, etc. Ils sont pas vraiment certains. C'est comme, vous savez, il y a une stat qui dit que normalement la foudre tombe jamais deux fois au même endroit. Ce qui est statistiquement faux, parce qu'en fait, c'est même plutôt l'inverse. Hein, la foudre a plutôt tendance à venir frapper au même endroit. Pourquoi? Parce que la foudre, en fait, elle frappe à des endroits avec quelques caractéristiques bien particulières, vraiment, et on va en reparler après. Et donc, bah, si l'endroit a une caractéristique particulière un jour, si le quelques temps après, il existe encore ce lieu, cet endroit, etc., il y a des chances pour que la foudre puisse retomber au même endroit. Pour mesurer le danger, quand même, il faut se dire que chaque année en France, alors selon les stats, alors j'ai trouvé des stats qui disent pas tout à fait la même chose, mais j'ai pris les stats en fait d'une association qui est vraiment spécialisée dans le domaine, qui dit qu'environ 200 personnes sont foudroyées en France chaque année et qu'environ 10% en meurent. Et 70% des survivants conservent des séquelles graves, comme des perturbations cardiovasculaires, neurologiques graves, des traumatismes, des chocs psychologiques, des atteintes auditives et visuelles. Donc voilà, c'est alors, on peut dire 200 personnes sur les millions que nous sommes, c'est pas un gros chiffre, c'est pas vraiment important, mais en fait, il faut se dire que ça existe quand même. Et notamment parce que moi, en tant que Clermontois, j'ai grandi avec une histoire tragique, parce que quand j'étais gamin, je voyais une plaque quand j'allais au stade Marcel Michelin, où joue l'équipe de rugby, et où moi j'ai joué au foot, et où jouaient les équipes de foot il y a très 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 longtemps, et moi j'ai joué au foot hein, sur ce terrain. Et ben, au milieu du terrain, sur le long d'une tribune, il y avait une petite plaque qui était dressée en l'honneur d'un joueur de rugby qui s'appelait Jean-François Flepeneau, qui a été foudroyé le 8 mai 1976, et c'est l'année de ma naissance. Alors vous voyez comme quoi ça marque. Et à l'époque, il avait 25 ans, donc c'était des matchs, genre des tournois. Il y avait Aurillac et Vichy qui étaient venus jouer, enfin je sais pas comment ils jouaient, une triangulaire ils appellent ça, donc je pense qu'il y avait des matchs entre les différentes équipes avec un petit classement. Et donc en fait, ben il est mort foudroyé sur le terrain, là devant le public, devant sa femme et tout qui assistait au match. Il y a une plaque au stade hein, qui rappelle cet accident, et en fait il y a une tribune qui a été dressée, qui a son nom, hein, il y a son portrait là, c'est qui est sur le côté. Donc voilà, c'est moi j'ai grandi en tant que Clermontois dans le fait que oui, la foudre tombe et elle peut tomber sur des sur les gens, voilà, directement, et y compris d'ailleurs dans un sur un terrain, sur un stade, etc. Alors justement, j'ai creusé la question et de savoir bah, finalement qu'est-ce qu'on doit faire quand on est sur notre vélo. Et donc, je suis tombé sur l'association Protection Foudre, dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, qui a mis plein de consignes avec des petits dessins, des différents cas, etc. Il n'y a pas le cas du vélo, mais il y a le cas de la montagne, de la campagne, du travail, de la maison, etc. Donc voilà, il y a plein de cas. Et déjà, il y a un chiffre qui est rassurant, c'est que on peut se dire que déjà, on n'est pas les plus sensibles, alors est-ce que c'est statistique ou quoi que ce soit, mais sur les cas, globalement sur les cas, hein, sur les pourcentages, en fait, on arrive loin derrière le lieu de travail, parce que oui, il y a des gens qui sont exposés par leur travail, hein, notamment ceux qui travaillent sur des toits, ceux qui travaillent en extérieur, etc. Et que le vélo, en fait, n'arrive qu'en dernière position. Avant, il y a les infrastructures sportives, la montagne, le camping aussi, même d'ailleurs. Il y a même la mer, la plage, la mer, enfin voilà, tous les trucs comme ça, sont avant le vélo et la moto. Donc déjà, c'est un point rassurant. Je me dis qu'après, peut-être, parce que c'est qu'en tant que cycliste, on se méfie un petit peu, et on évite d'aller se foutre dans l'orage en vélo, parce qu'on sait que nous, on n'est pas protégés comme en bagnole ou des choses comme ça. Je sais pas. En tout cas, statistiquement, on n'est pas les plus foudroyés. Même si on est foudroyé par notre amour pour le vélo, hein. Quand on a un coup de foudre pour le vélo, c'est autre chose. Mais voilà, c'est le cas, c'est comme ça. En tout cas, toutes les recommandations que donne cette association pour se protéger contre la foudre sont fondées sur deux principes. Un, on évite de constituer une cible pour la foudre. Et deux, on ne se place pas dans des situations qui risque d'appliquer une différence de tension entre deux parties du corps. Alors là, je vais vous revenir là-dessus, mais dites-vous qu'en fait, il y a un truc, il y a un principe simple, c'est que si vous avez les deux jambes écartées, eh ben, il y a plus de risques de problèmes si vous prenez la foudre, tout simplement parce que il y a une différence en fait entre les deux jambes, c'est la fameuse différence de tension. Donc c'est pour ça que toutes les recommandations disent d'ailleurs qu'il faut pas avoir les jambes trop écartées, il faut pas écarter les bras, etc. Et il faut la position de sécurité est plutôt d'avoir les jambes resserrées et d'être accroupi et non pas de bouger dans tous les sens. Voilà. Bon, ça, on pourrait se dire, ça semble logique, mais peut-être pas tant que ça, en fait, quand on regarde un petit peu le comportement qu'on peut avoir. Maintenant, la première chose, c'est d'abord d'estimer le danger. Hein, avant de savoir ce qui se passe quand on est dedans, on estime le danger. En fait, bon, premier rappel, c'est qu'il faudrait regarder la météo, parce que c'est vrai que souvent, on va partir le matin, il peut y avoir du grand soleil, etc. Même moi, quand je suis parti, franchement, l'autre jour, il y avait un grand soleil. Quand je pars, il y a un grand soleil. C'est juste qu'en fait, après 25 km, je suis arrivé dans une zone où là, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus chahuté. Il commençait à y avoir un petit peu de vent qui arrivait. On voyait un petit peu les éclairs au loin. C'était très, très noir, etc. Donc déjà, il faut regarder la météo, voir un petit peu si la météo, en fait, elle dit oui, là, il y a ciel bleu. Je rappelle d'ailleurs qu'au début, les orages, ça commence par, il y a des gros nuages, des beaux nuages blancs qui brillent dans le ciel, etc. Et qu'ensuite, ça devient très noir. Mais qu'au départ, les nuages, on arrive même dans des situations où ça, d'abord du ciel bleu, hein, surtout tous les orages d'été comme ça, qui constituent comme ça. Donc, on regarde la météo. On regarde d'ailleurs si des alertes de vigilance, vous savez, les fameuses vigilance orage, en fait, elles sont destinées à prévenir les personnes qui travaillent en extérieur, se promènent ou font du sport. Hein, donc, on en fait partie. Quand il y a une vigilance, on considère qu'en fait les personnes ont dit bah mettez-vous à l'abri. Donc c'est pour dire les personnes qui seraient dehors à ce moment-là, mettez-vous à l'abri. Donc voilà. Le danger existe si la distance à un nuage d'orage est inférieure à 10 km et si au moins 30 secondes ne sont pas écoulées entre le dernier tonnerre audible et le dernier éclair. Ah là là, alors attention, ça veut dire que là en fait, il faut faire des calculs. En fait, pourquoi on donne ce chiffre-là, c'est que la foudre peut survenir soudainement avant que la pluie n'arrive. Donc la pluie en elle-même n'est pas un indicateur que la foudre peut frapper, hein, ça c'est un premier point qui est important. Et donc en fait, il faut arriver à évaluer si finalement bah on est loin ou pas de l'orage et de là où la foudre peut tomber. Et donc pour évaluer la distance de la foudre, il faut compter entre les secondes entre l'éclair et le tonnerre. Si vous comptez moins de 30 secondes, et ben il faut se mettre à l'abri parce que l'orage est à moins de 10 km. Et quand il est à moins de 10 km, et ben ça veut dire qu'en fait, il y a plus de chances, en fait, il y a plus de risques, je veux dire, plus que de chances, il y a plus de risques, en fait, qui viennent nous frapper, même si la pluie n'est pas encore là, même s'il ne pleut pas ou quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il pleuve pour que la foudre tombe. Voilà, c'est comme ça. Donc, si vous sentez que le danger arrive, hein, si vous voyez le danger arriver, si vous voyez que c'est noir, si vous voyez des éclairs, etc., vous pouvez avoir ce réflexe de compter déjà un peu les éclairs, les orages, le tonnerre et tout. Comment ça gronde, la présence des éclairs, est-ce qu'ils sont loin, pas loin, la distance, etc. Et donc, à partir de là, ben, il faut déjà se mettre à l'abri. Et déjà, un premier point pour se mettre à l'abri, c'est d'éviter les terrains élevés et les espaces ouverts. C'est-à-dire que si vous êtes en plein milieu d'un champ, ben, il va falloir trouver un autre endroit que le champ. En fait, il faut se dire que les éclairs ont plutôt tendance à frapper en hauteur. Et donc, si vous êtes sur un plateau, sur une crête ou en montagne, hop, là aussi, il faut plutôt s'enlever. Donc, on évite les petites collines, on évite les montagnes, on évite la plage aussi, d'ailleurs, de se mettre au plein milieu de la plage. Alors, la mer, en plus, il y a d'autres raisons, vous allez voir pourquoi. Les crêtes, les montagnes, etc., tout ça. Je vous rappelle, d'ailleurs, les deux cyclistes sont morts, là, au col de l'Assiette, hein, donc, dans un col des Alpes, hein, donc, ce qui montre, d'ailleurs, qu'en montagne, et je le disais dans les statistiques, il y a beaucoup plus de cas de personnes qui ont été foudroyées en montagne que des personnes qui sont foudroyées sur un vélo. Alors bon, après, si on fait le cumul, il se trouve que dans les statistiques, peut-être que si on faisait les stats de l'an dernier, les deux personnes qui sont mortes à vélo étaient aussi en montagne. Donc je sais pas dans quelle catégorie ils les rentrent, mais en tout cas, il y a aussi des alpinistes. Il y a plein dans l'histoire, en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire des gens qui ont été foudroyés, il y a des célébrités qui ont été foudroyées, hein, notamment des chanteurs, etc. On constate que certains c'était sur un bateau, certains donc il y a eu le cas du sport, certains c'était en montagne, etc. Je le dis, hein, par exemple, parce qu'un alpiniste qui a un piolet dans la main et qui a un piolet avec du métal sur une crête est un très bon paratonnerre, hein, en principe. Enfin, c'est voilà, c'est lui qui peut jouer ce rôle. Donc attention, c'est ce genre de cas-là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc le premier truc, c'est de se dire bon bah je suis dans un endroit qui est un peu exposé. Je vais trouver un abri. Et puis, si on est sur un plateau, sur une crête, eh ben, on va se dire, en vélo, c'est assez rapide de descendre. Ce qui n'est pas le cas quand on fait de la randonnée, parce que quand on fait de la randonnée, des fois, ça prend du temps de descendre. En vélo, on peut aller assez rapidement, de se dire, vite, je peux accélérer, là, j'ai le temps encore avant que ça arrive, ou je peux vite descendre pour éviter de rester dans cette zone exposée, et puis trouver un abri. Mais maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour trouver un abri et comment on va faire? Eh ben, en fait, quand c'est trop tard, qu'on est dedans, là, eh ben, en fait, faut descendre du vélo. Bah oui, parce que, au départ, on pourrait tenter de rentrer le plus vite possible, même quand on est sous la flotte, même quand il y a les orages, que ça gronde et tout dans tous les sens. C'est un petit peu la question que je me suis posée, là, la semaine dernière, quand je me suis retrouvé sous cet orage-là. Je me suis dit, oulala, alors attends, là, c'est en train de commencer à pleuvoir, là, je vois, ça gronde à tel endroit, là, je vois des éclairs et tout. Le truc, c'était de me dire, est-ce que je peux pas finir, il me reste environ 25, ouais, 30 kilomètres, il me restait à peu près. Est-ce que les 30 kilomètres, je peux les faire? Ou est-ce que je peux pas les faire? Donc, on pourrait tenter de rentrer le plus vite possible. Mais en fait, le corps, dans ce cas-là, va dégager de l'énergie et ben, qui facilite le trajet de la foudre, en fait, vers le sol. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, en fait, il faut pas essayer de finir notre activité. Il faut attendre que l'orage passe et il faut trouver un abri. Et en fait, il faut se dire aussi que bah, si vous êtes dans une situation où vous courez ou vous marchez, courir ou marcher à grandes enjambées, augmente le risque, en fait, à cause de la fameuse tension de pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une différence de tension dangereuse qui apparaît entre les deux pieds lors d'un coup de foot qui est proche. Et donc, justement, c'est pour ça que la position de sécurité, ce n'est pas d'avoir les jambes écartées, c'est pas de courir, c'est pas de marcher avec des grandes enjambées, etc. C'est d'avoir les pieds qui sont l'un contre l'autre, hein, qui sont vraiment l'un contre l'autre. Voilà, et c'est comme ça. C'est des phénomènes physiques, hein. Là, on parle de physique, hein, dans cette histoire-là. Mais maintenant, alors, on descend du vélo et on se met à l'abri. Mais où se mettre à l'abri ? Hein, où se mettre à l'abri ? Alors, vous savez que le conseil le plus connu, c'est qu'on évite de se mettre sous un arbre isolé. Et c'est vraiment le conseil le plus connu. D'ailleurs, une statistique que j'ai vue, c'est que le risque serait d'être foudroyé serait multiplié par 50 quand on est sous un arbre isolé. En fait, le risque est de plus en plus important. Plus l'arbre est haut et plus le danger augmente. Alors, il y a eu des légendes comme quoi ils disaient que le chêne prenait plus la foudre, etc. Il n'y a pas d'espèce d'arbre qui prend plus la foudre que d'autres. C'est en fait que souvent les chênes sont plus grands que les autres. Mais si vous êtes un grand, je sais pas, il y a des très grands sapins, des cyprès, etc., qui sont très hauts, qui prennent la foudre, hein, ça arrive très souvent. Ben en fait, c'est parce qu'eux, ils sont plus hauts que les autres. Donc l'arbre le plus haut, finalement, augmente son risque de prendre la foudre. Et en fait, plus l'arbre est haut, et plus le danger augmente. Hein. Et si un arbre haut est isolé et que vous mettez dessous, donc vous comprenez qu'en fait, vous augmentez le danger. Et en fait, si la foudre frappe l'arbre, l'électricité peut se déplacer le long du tronc et se propager jusqu'aux racines, pénétrer le sol, et en fait, ça fait un choc puissant. Et donc, c'est ça, en fait, qui pose problème. Hein. C'est-à-dire que le fait d'être sous l'arbre, et si vous touchez l'arbre et qu'il prend la foudre, eh ben en fait, vous allez être contre l'arbre qui est conducteur, en fait. Vous allez prendre l'électricité. Donc, en fait, il faut se mettre à 3 mètres minimum de l'arbre, hein, pour éviter le choc. Mais par contre, hein, ce que dit l'association, c'est que c'est bien d'être à moins de 10 mètres de l'arbre, parce qu'en fait, on obtient une certaine protection contre des impacts directs. C'est-à-dire que si vous êtes sous l'arbre, l'arbre, lui, il peut prendre la foudre. Si vous mettez à moins de 3 mètres, vous êtes plus petit que l'arbre, donc c'est plutôt l'arbre qui va prendre la foudre. Si vous êtes à plus de 10 mètres, et ben en fait, vous devenez en fait une sorte d'antenne qui peut attraper la foudre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre à 3 mètres minimum de l'arbre, mais plutôt dans une zone de 3 à 10 mètres, on va dire, comme ça. Et donc, de s'accroupir sur ses talons, les pieds joints, une position de sécurité, bah oui, sous la flotte, et ne pas se mettre sous un parapluie. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un poncho de pluie, un ciré, un vêtement de pluie pour se protéger. De toute façon, on finira par être mouillé dans tous les cas. J'ai vu des trucs comme quoi, or les chaussures, vous savez, de marche avec des grosses semelles, n'évitent pas grand-chose au niveau des risques. J'avais vu qu'il disait on pouvait mettre un ciré par terre et se mettre dessus. Bon, je sais pas. Enfin voilà, l'association, je crois qu'elle le met pas, elle met pas cet exemple-là. Donc je me méfie en fait des légendes hein, comme quoi en se mettant sur une nappe en plastoc, ça protégerait. J'ai un peu de mal à voir à quel point ça peut protéger, mais je ne sais pas. Après la réalité. Et j'ai vu, selon les recherches, les conseils sont pas tout à fait identiques. Donc là, je me base plutôt sur ce que raconte le site de cette association qui est vraiment spécialisé dans le domaine. On évite les cabanes, surtout les cabanes avec une toiture de tôle. Eh bien, logique, parce que c'est métallique. On évite en fait les petites constructions ouvertes. Hein. Alors, les petites dimensions. Alors moi, pour l'anecdote, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Bah zut, j'avais pas choisi le bon endroit pour me protéger parce que je vois que je m'étais mis sous un abribus. Oui, parce que dans le village où j'étais, en fait, il y avait une grange ou un abribus. Enfin, une grange, vous savez, un truc de foiraille plutôt, un truc, pas une grange, une espèce de halle de marché, mais qui était ouverte, hein, qui n'était pas fermée. Alors, la halle de marché était beaucoup plus grande, vraiment beaucoup plus grande, hein, c'est sûr. Mais en fait, je l'ai pas prise parce qu'elle était en plein courant d'air. Et ça, finalement, c'était plutôt une bonne idée. Parce qu'en fait, il faut éviter le courant d'air. Par exemple, si vous voyez une caverne, oui, une caverne peut être une bonne protection, mais en fait, dans une caverne où il y a un courant d'air, c'est une mauvaise idée. Et dans ce cas-là, en fait, il faudrait pas se mettre à l'entrée de la caverne, il faudrait mettre plutôt vers le fond de la caverne, ouais. Et si vous n'avez pas trop peur, et en position de sécurité, et on évite de toucher les murs de la caverne. Voilà, donc une petite construction, bah on est plus proche des murs, et en fait, ça se comprend un peu l'histoire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est que si vous êtes contre quelque chose... Plus la petite cabane ou le par exemple l'abribus bah finalement est conducteur, donc vous êtes juste à côté, même si c'est quelques centimètres, vous avez plus de chances, vous êtes à côté des murs finalement. Et donc finalement, si la structure dans laquelle vous êtes prend la foudre, et que vous touchez la structure, vous comprenez qu'en fait, bah, vous pouvez prendre la foudre, l'électricité peut passer. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut plutôt des lieux qui soient plus grands, en fait, que des petites cabanes, que des petits abribus, etc. Bon, moi j'ai trouvé cet abribus-là. Finalement, entre l'abribus et la halle de marché, qui était ouverte, etc., mais qui était plus large, c'est vrai que la halle de marché, l'avantage, c'est que je pouvais me mettre en plein milieu, et pas rester en fait contre les murs, alors que là j'étais obligé de poser le vélo contre le mur et j'étais obligé de je me suis pas assis sur le banc quand même, je suis resté debout, j'ai regardé, j'ai compté un petit peu combien il y avait d'orages, la pluie, commencé à regarder, etc., et j'ai regardé des gens qui restaient à l'abri dans leur voiture. Et ben, être à l'abri dans sa voiture si la voiture est fermée, c'est une bonne idée. Voilà, alors nous en vélo, c'est pas le cas, on peut pas être dans notre vélo, on est à vélo. Donc sur mais une voiture, si par exemple vous arrivez jusque à votre voiture, si vous êtes parti en VTT, vous êtes parti sur un lieu en voiture, eh ben c'est une bonne idée de vous mettre dans la voiture. Il vaut mieux se mettre dans la voiture pour être à l'abri que se mettre sous un arbre. Voilà, voilà, c'est la condition de sécurité. Sachez aussi que la tente de une tente de camping, de bikepacking ou tout ce que vous voulez ne vous protège pas non plus. Hein. Là, il y a aucune protection. Et en fait, donc, il vaut mieux s'abriter dans une voiture fermée, je viens de le dire, mais aussi dans une maison, dans un grand bâtiment, comme un magasin ou un restaurant. Donc, par exemple, quand on voit que l'orage approche et qu'on peut pas l'éviter, qu'on est sur un plateau et qu'on se dit, tiens, il y a un village là-bas avec un petit restaurant ou quoi que ce soit, eh ben, c'est peut-être le moment d'aller boire un coup. Oui, tout simplement. De dire, bah, tiens, je vais faire une pause, je vais aller boire un petit coup en attendant que l'orage passe. Je vais me mettre à l'abri là-bas, dans un truc comme ça. C'est pas un mauvais plan, c'est même un très bon plan, on pourrait le dire. Et puis, ou sinon, alors, magasin et tout, à voir, hein, mais voilà, vous savez, ça dépend où on traverse, hein. Il y a des villages où il peut y avoir des magasins, des restaurants, des choses comme ça. Il y a des endroits où des fois on n'a rien du tout, hein. Donc c'est pour ça que des fois c'est pas si facile que ça. Sachez que si vous trouvez une forêt dense, et ben une forêt dense, l'intérieur d'une forêt dense est protecteur, mais attention, il faut garder de la distance avec les arbres. Bah ouais, parce qu'en fait on revient dans le problème de l'arbre qui est conducteur. Donc on revient dans cette truc là, c'est-à-dire que le fait que ce soit une forêt, bon, bah finalement, il y a moins de chances que ça prenne. Mais par contre, si ça peut quand même prendre, hein, la foudre. Et donc, si vous êtes contre l'arbre qui prend la foudre et les branches, alors il faut éviter les branches basses, le tronc, etc. Comprenez que le problème du choc est le même, hein, vraiment le même. Donc voilà. Faut éviter aussi de rester à proximité d'une clôture, même non métallique. Il faut aussi attention à tout ce qui est eau, et notamment les piscines extérieures, les choses comme ça. Mais c'est pareil aussi, la mer, la plage et tout, l'eau, hein, fait partie en fait des conducteurs et tout. Donc attention à ça. On s'éloigne de son vélo, qui peut être un excellent conducteur électrique, donc on se méfie, on est loin de son vélo. C'est aussi de la même chose, hein, on s'éloigne de tout ce qui est métallique, en fait, hein, tout simplement. Par exemple, si vous avez un parapluie, vous le mettez pas au-dessus de la tête, vous le mettez plutôt à 2-3 mètres de vous. Si vous avez un piolet en montagne, c'est pareil. Enfin, voilà, il y a toutes les histoires sont un petit peu comme ça, hein. On s'éloigne de ce qui peut conduire l'électricité, tout simplement, et de ce qui peut être ce chargeur d'électricité ou de ce qui peut l'attirer. Et puis, faut savoir qu'en fait, le risque de foudroiement d'une structure quelconque augmente avec le carré de sa hauteur. Donc un objet qui nous surélève de 1,4 fois la hauteur d'une personne, par exemple, double ce risque. C'est pour ça que si vous mettez un parapluie au-dessus de votre tête, d'une part, il est métallique, etc. Mais en fait, la hauteur augmente, hein, et 1,4 fois, c'est pas grand-chose. Donc il suffit de tendre un peu le parapluie au-dessus de vous pour que le risque double. Donc on comprend en fait un peu l'histoire. Sachez aussi un truc, c'est que si vous êtes en groupe, il faut pas rester collés les uns aux autres. En fait, il est conseillé de s'écarter d'au moins 3 mètres les uns des autres. Parce qu'en fait, le foudroiement d'une personne peut se propager aux autres personnes qui sont à côté. On est un peu comme sur le principe de l'arbre, en fait, hein. On reste un peu sur le même principe, hein, vraiment. Donc là-dessus, c'est pareil, hein, si on est en groupe. On s'écarte, voilà, on s'écarte des vélos, on s'écarte des autres, on se met en position, soit on se met, si on peut pas se mettre à l'abri, hein, je veux dire, on s'écarte les uns des autres et on se met en position de sécurité, c'est-à-dire assis sur ses talons et les plutôt serrés, tout regroupé comme ça, et hop, on attend que ça passe. On s'éloigne des points d'eau. Je le répète, hein, l'eau est un excellent conducteur. Il faut éviter d'être trop proche d'un lac, la rive de la mer, de l'océan, voilà, tout simplement. Faut faire prudence aussi, faire attention plutôt, faire preuve de prudence, voilà, c'est ce que je cherchais, à proximité des ruisseaux, des rivières. En fait, il y a un truc, c'est que si vous voyez un pont, on peut se dire que se mettre sous le pont pour se protéger, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Mais attention, parce que ce qui peut se passer, c'est que sous le pont, en généralement, il y a des ruisseaux, une rivière et qu'un gros orage peut faire monter l'eau très 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 rapidement. Et il faut faire attention aux crues éclairs avec les orages qui sont violents. Il y a des régions qui sont très 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 connues pour ça. Moi par exemple, j'ai la famille dans les Cévennes et les petits ruisseaux des Cévennes sont connus pour gonfler en quelques minutes. Pourquoi ? Parce que l'eau dégringole long là de la caillasse des petites montagnes qui paraissent des petites montagnes, des collines, etc. Et tout d'un coup, les petits ruisseaux qui paraissaient de rien, alors dans les Cévennes, là où je vais, moi, ils appellent ça le Gardon. Toutes les rivières s'appellent le Gardon dans les Cévennes, hein, faut le savoir. Toujours le Gardon. Alors, il y a le Gardon d'un tel endroit, le Gardon d'un autre, le Gardon d'un autre et tout, mais tout s'appelle le Gardon. Et il faut savoir qu'à un moment, quand le Gardon se met à grossir, ça peut grossir extrêmement vite. Donc, si vous êtes sous le pont et que le Gardon grossit, moi, j'ai vu, il y a des endroits où j'ai de la famille, où le Gardon qui paraît tout petit un jour, en quelques minutes peut se retrouver à passer par-dessus le pont. Il y a même des endroits, notamment j'ai la famille, la Grand Combe à l'est dans cette zone-là, où ils ont fait en fait des barrages exprès pour retenir l'eau, justement pour lutter contre les orages. Si vous avez entendu parler des épisodes Cévenol, etc., on est vraiment dans ces cadres-là. Et vous savez que chaque année on voit la météo, on voit des orages qui font des trombes d'eau, qui font des coulées de boue, des choses comme ça. Dans les Cévennes, on a souvent ce truc-là, hein, dans le Gard, là, le vous avez parti du Gard, le nord du Gard, là, dans les Cévennes, vous avez parti de l'Hérault, dans ces zones-là et tout. On sait, attention, que si vous êtes sous le pont et que d'un coup, ça fait comme une grande vague qui arrive, c'est pas une bonne idée non plus. Voilà, donc c'était le dernier conseil là-dessus. On se méfie de ça. En fait, après, vous avez compris donc un peu la logique hein, de tout ça. C'est de dire que faut éviter d'être un point qui attire, faut éviter de être un élément qui conduit, faut éviter en fait d'avoir cette zone d'être conducteur. Donc on comprend que il faut se mettre à l'abri et c'est vrai que l'idéal, hein, ça serait de pouvoir se retrouver hébergé dans une maison, dans un restaurant, un magasin, chez quelqu'un, une grande grange un peu fermée, enfin, des choses comme ça. Voilà, si on arrive à trouver, hein, ça c'est le grand conseil principal. Et puis attendre que ça passe en fait hein, avant de repartir. C'est le dernier conseil, c'est attendre que l'orage passe complètement avant de reprendre le parcours. Donc vous avez le truc de compter là, de voir si finalement l'histoire des 30 secondes entre l'éclair et le tonnerre, bah vous pouvez toujours le compter, hein, continuez à compter là-dessus. Vous regardez aussi si vous avez au téléphone les cartes météo qui vous indiquent où passent les orages. Il y a plein d'applications qui montrent les nuages, où ça passe, etc. et tout. Donc on attend que l'orage passe complètement avant de reprendre le parcours. On reste en sécurité, on se met à l'abri. De toute façon, on s'est arrêté pendant quelques minutes, donc on peut continuer à s'arrêter un peu plus. Faut juste se dire que c'est bien si on a de quoi manger, de boire et tout en attendant, de patienter un petit peu. On attend tranquillement et puis le conseil finalement c'est de se dire même il faudra attendre une trentaine de minutes avant de repartir pour être tranquille hein, parce que c'est vrai que les orages ça passe etc. Et ça serait quand même couillon de se remonter sur son vélo et de qu'on prenne le même chemin que l'orage, c'est-à-dire partir dans la même direction. Ça serait couillon, avouons-le, parce que finalement on re-augmente le risque, donc il vaut mieux lui laisser. J'ai envie de dire, on laisse de l'avance, on laisse partir dans son coin, et puis quand il est parti, nous on reprend notre chemin. Voilà, écoutez, c'était mes recherches, hein. C'est un truc qui m'a interpellé, parce que depuis la semaine dernière, je me disais, mais quand même, est-ce que j'ai eu le bon réflexe sur mon vélo quand cet orage a commencé à tomber? Est-ce que j'ai eu vraiment le bon réflexe? J'ai failli avoir un autre réflexe hein, qui était de dire, est-ce que je pouvais pas rejoindre une gare proche et finir mon trajet finalement en train? Qui aurait pu être une solution aussi hein, sur l'instant finalement. J'ai regardé parce que j'avais une voie ferrée pas très loin et puis d'un côté je me suis dit oui mais alors la voie ferrée est-ce qu'elle elle peut pas tirer l'orage et tout parce qu'il y a du métal etc. donc m'en éloigner un peu et je me demandais surtout si finalement il y avait des gares sur cette voie ferrée et qu'il y avait alors une gare ça pourrait être à l'abri si la gare est ouverte et puis si la gare il y avait c'est parti des arrêts de train en fait et en fait quand j'ai calculé parce que je connais bien la ligne et tout je savais que il y avait pas de gare où le train s'arrête et me permettait de finir déjà en train, hein, en mettant le vélo dans le train, donc déjà c'était pas le cas. Et donc après, je m'étais dit, si finalement je vais me mettre à l'abri, alors, au début j'ai commencé à mettre un peu à l'abri de la pluie, pas loin d'une maison, et puis après, quand j'ai vu que ça grondait, je me suis dit, il va falloir que je trouve un abri qui soit vraiment plus réel que ça, donc j'avais un kilomètre, donc c'est là où j'ai sorti mon GPS, j'avais un kilomètre pour trouver finalement un village plus gros, me disant, tiens, dans ce village plus gros, je vais bien trouver un endroit pour mettre à l'abri. Il se trouve que à l'heure qu'il était 19h30, autour de 19h30, 20h, Il n'y avait pas de, restaurant dans ce village, il n'y avait pas de bar ouvert. Ouais, ça arrive. Des villages sans bar maintenant. Voilà, c'est avant, je pense que c'était moins le cas, maintenant c'est le cas. Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de bar, la mairie était fermée, les trucs, il n'y avait rien, pas de magasin, c'est vraiment un petit village et tout. Et je trouve que j'avais cette hésitation entre cette grange et ce petit abribus. Bon, bah maintenant, je sais que, enfin, cette grange, cette halle qui ressemble à une halle de marché, etc. Voilà, bah écoutez, peut-être que la halle de marché était plus sécurisante, etc. En tout cas, j'ai fait comme j'ai pu. La preuve que je suis là, hein, donc je m'en suis sorti sans aucun problème. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, après je me suis posé la question de me dire, c'était quoi le vrai bon réflexe à avoir ? Quel a été le vrai bon réflexe ? Alors, n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous est arrivé, ce genre de choses, l'orage et tout, parce que on a eu des scènes, hein, on a vu des courses cyclistes, j'ai vu des en Pologne, hein, ils ont eu des orages énormes, on a vu des trails il n'y a pas longtemps qui ont été déviés justement pour éviter de faire passer l'orage sur les crêtes, pour mettre en, éviter de mettre en danger les coureurs de ce trail. On a eu des courses vélo aussi dont ils ont sur le Giro par exemple, ils ont modifié les parcours justement parce qu'il y a trop d'orages, trop de pluie, etc. Donc pour éviter les dangers. Donc c'est un vrai sujet, voilà, que je voulais aborder. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pouvez mettre des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, sur chaque épisode vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Instagram @BertrandSoulier aussi, même sur LinkedIn vous allez pouvoir me trouver si vous avez envie de discuter et d'échanger, sur Twitter aussi, @BertrandSoulier partout, hein, de toute façon ça sera facile, et pour me dire si vous avez déjà eu peur sous des orages comme ça, parce que j'ai même pas parlé du cas de la grêle en plus, hein, là moi il n'y a pas eu de grêle, hein, la dernière fois, mais en plus avec la grêle, voilà, c'est sûr que grêle plus comment se mettre à l'abri de la grêle par rapport à toutes ces recommandations, voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent, donc n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos réflexes, si ça vous est arrivé, si vous avez vu des scènes, des choses comme ça. Et puis si vous avez d'autres questions que vous souhaitez que j'aborde en fait dans les épisodes, je suis en train de constituer aussi j'ai quelques idées de nouveaux invités, notamment parce qu'en ce moment vous savez il y a plein d'événements cyclistes, etc. Il y a eu des Poco Loco, il y a la Race Cross France là qui démarre, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc je regarde un petit peu les invités et puis il y a des challenges. Je fais un petit clin d'œil à ceux qui font le challenge Tourmagne notamment là, qui est un challenge qui passe pas très loin de la maison, qui descend de Melun jusqu'à Nîmes, si je me trompe pas, avec un gros challenge gravel, etc., qui doit faire 700, non, peut-être pas 700 km, je sais pas exactement combien. Ouais, si, un bon kilométrage quand même. Voilà, je regarde tous ces challenges-là, et donc ça donne des idées de personnes, d'invités, de personnes qui les font, de regarder un petit peu ce qu'elles font. N'hésitez pas, donc, en attendant qu'il y ait d'autres invités, pour me donner d'autres conseils pour préparer tout ça, en attendant que je puisse ou pas faire mon challenge tel que je l'ai prévu, mes fameux aller voir manger des cookies et manger une glace au bord de la mer. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.